Et bien sûr, il y avait pas mal de monde à la messe sur place au Minnesota et devant les téléviseurs un peu partout à travers le monde, particulièrement en Amérique, pour regarder ça. Ray Lalonde est avec nous à la chronique Sport Business. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Alors, tu as les chiffres, je pense, par rapport au code d'écoute, notamment, et bien d'autres.
Oui, ce qui est sorti aujourd'hui, Mario, là, c'est toujours le lendemain matin d'un événement. Ça s'appelle le Overnight. Et c'est suivi quelques jours plus tard avec les chiffres finaux. Alors, dans le Overnight, NBC hier a récolté une cote d'écoute de 47,4. C'est en baisse de 3% sur le Super Bowl de l'an dernier. Il y a toutes sortes de facteurs qui sont à considérer, Mario, dont la baisse générale de la consommation à la télé, la baisse de la NFL cette année de 9% en saison, qui est due à plein de facteurs. On en a parlé beaucoup, mais je pense qu'il y a encore des gens qui rouspètent et protestent un peu contre le comportement de certains des joueurs en saison avec Donald Trump, avec les genoux au sol durant l'hymne national. Alors, ils ont perdu quelques partisans qui ont décroché tout simplement, mais ça a été un match extraordinaire comme tu le sais, mais ça demeure une excellente cote d'écoute, 47,3, c'est fabuleux.
Est-ce qu'on sait déjà si, comme c'est la tradition d'habitude, que c'est le spectacle de la mi-temps où on a enregistré la plus forte audience? Moi particulièrement, je sais pas comment t'as trouvé le spectacle de Timberlake. Moi, il m'a pas fait capoter, là, c'était bon, mais...
C'est ça. Ben, t'as raison de dire qu'effectivement, ce que t'as viens de dire là, ça décrit le feeling, le sentiment chez les Américains. Très bon spectacle, mais il n'y a rien qui a été absolument spectaculaire.
Mémorable.
Renversé, là, mémorable. Si tu regardes la cote d'écoute pour hier soir, c'est 48,1 pour la période de 8h15 à 8h30 hier soir où avait lieu Justin Timberlake. Alors lui, il a été à égalité avec Madonna en 2012 comme étant le spectacle de la mi-temps Pepsi le moins vu. Ah. Alors 48,1. C'est mieux que le match en moyenne, mais l'année précédente, l'année dernière, c'était Lady Gaga avec 50, puis Katy Perry avec 50,8 en 2015 demeure le sommet jusqu'à maintenant.
Donc, c'est pas mal de monde à messe. Puis dans la courbe d'audience, est-ce que tu vois si plus on culmine vers la fin du match, plus il y a de monde?
Oui, absolument. Puis une chose qui est claire, puis il faut quand même expliquer aux gens, c'est quoi les codes d'écoute. Les codes d'écoute, c'est un système établi par la compagnie Nielsen. Ils mettent des indicateurs statistiques dans 5000 foyers aux États-Unis. C'est attaché à la télévision. Ça permet de suivre les habitudes, les tendances de consommation. C'est partout aux États-Unis, dans les 50 États, pour avoir une population, là, échantillon général. Et puis, un point sur une cote d'écoute, comme 47,4, c'est 47,4 points, ça représente approximativement, Mario, l'équivalent de 1,18 sur une échelle. Alors, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a 323 millions d'habitants, 126 millions de foyers, dont 118 millions qui ont des téléviseurs. Alors, un point égale 1% de 118 millions, c'est-à-dire 1,18. Alors, quand on multiplie le 47 fois 1,18, ça donne à peu près 55,9, puis tu multiplies ça par entre 2 et 2,5 personnes par foyer. Ben alors, ce qu'on a conclu hier aux États-Unis, c'est qu'il y avait autour de 106 millions de personnes qui regardaient le match dans les domiciles, mais pas incluant les bars, les parties et tous les regroupements de gens en plus. Alors, ça fait quand même, si tu calcules, là, plus du tiers du monde aux États-Unis qui a regardé le match, ce qui est quand même impressionnant. Tu penses juste à Donald Trump la semaine dernière lors de son State of the Union, son allocution au pays.
Oui.
Ça a été vu par 45 millions d'Américains. Alors, hier soir, on parle de entre 106 et, à mon avis, jusqu'à 125 millions d'Américains au total d'ici les chiffres finaux.
Wow! Et dis-moi, qu'est-ce qui attend Nick Foles, joueur le plus utile du Super Bowl, par rapport au côté mercantile de sa performance? Est-ce que tu penses que des commanditaires qui vont vouloir sauter sur cette opportunité-là?
Oui, mais je suis content que tu m'emmènes là, Mario, parce que j'écoutais ton entretien avec Bruno tout à l'heure. Puis tu sais, les Eagles, la force des Eagles, c'est qu'ils ont deux carrières qui payent au total à peu près 10 millions de dollars. Et tu as au moins 15 équipes dans la Ligue qui payent 15 millions de dollars pour leur carrière partant. Parce que Carson Wentz gagne 2,9 puis Nick Foles gagne 7 millions. Et les deux ont un potentiel énorme. Mais c'est surtout là que les Eagles sont bons, c'est qu'ils ont énormément d'argent à dépenser sur d'autres joueurs. Parce qu'ils ont une aubaine au poste de quart. Alors Nick Foles, on l'a vu. Jeune garçon humble, il l'a dit lui-même, il y a même pas quelques années, il avait réfléchi, songé à arrêter de jouer au football. Il est allé à la pêche avec son beau-frère. Il s'est dit, je vais lui redonner une autre chance. Imagine ce que ça a donné. C'est l'histoire incroyable d'un gars qui a persévéré, détermination. Puis aujourd'hui, ben là, il est le champion adulé, gentil, sympathique, humble, courageux et il a livré dans un moment de haute pression contre les Patriots. Faut le faire. Alors moi, je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui vont vouloir s'associer à lui pour les valeurs que représente Nick Foles et toutes les choses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et je pense que on parle pas d'un joueur comme Michael Jordan, James Harden. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il va pouvoir vraiment bénéficier de son succès du moment parce qu'en plus, il est relativement jeune, il y a encore de bonnes années devant lui. Et que ce soit avec les Eagles ou avec une autre équipe, il va être un camp arrière qu'on va voir souvent dans la NFL dans les prochaines années.
Je sais que tu nous as parlé du propriétaire des Eagles la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, mais il a été plus sage que le propriétaire des Falcons. Lui a attendu vraiment que ça soit fini avant de descendre, hein?
Ouais, effectivement. Disons qu'il était plus... Tu voyais qu'il connaissait un peu ce que les Patriots étaient capables de faire. Honnêtement, Mario, c'était un match extraordinaire. Je pense que les Eagles étaient les meilleurs. J'avais prédit une victoire des Eagles parce que je pense que la seule différence, c'était Tom Brady. C'est là qu'il y avait l'avantage des Patriots. Et Nick Foles a tout fait. Non seulement il n'a pas perdu le match, Mario, mais il a joué comme un champion et a gagné le match. Alors, c'est là vraiment la différence. Et Lurie, le propriétaire des Eagles, a été patient. Ça fait longtemps que Philadelphie n'a pas eu une équipe championne. Et les Eagles avaient raté à leurs deux premières tentatives au Super Bowl. Alors, bravo à la ville de Philadelphie. Bravo aux Eagles et à tous les partisans aux États-Unis. Parce que c'est dur pour la ville de Philadelphie depuis quelques années. Et les Eagles l'ont mérité.
Un homme de 66 ans, le propriétaire Jeffrey Lurie, originaire de Boston, tel que tu nous l'expliquais. Pour les gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller dans les audios de l'émission de vendredi. Ray, je te remercie beaucoup. On se reparle, je pense, pas plus tard que demain pour la chronique régulière.
Avec plaisir, Mario. Salut.
Bye-bye. C'est pas parce qu'on n'a pas trippé qu'il n'y avait pas des moments agréables quand même avec Timberlake. On revient après la pause avec Dan Brière.